Je crois que ce qui manque dans l'Église actuellement, c'est cette attitude qu'avaient les martyrs. Je dis souvent aux gens, si vous n'êtes pas prêt à mourir pour l'Évangile auquel vous croyez, vous ne serez pas prêt non plus à vivre cet Évangile. Il est honteux pour nous chrétiens de constater à quel point les musulmans sont prêts à se consacrer d'une manière totale pour leur cause, tandis que nous ne le faisons pas, même si notre cause est la vraie cause. Pour eux, ils considèrent comme un honneur de mourir pour leur cause, tandis que pour nous, nous cherchons à retirer tout ce que nous pouvons pour nous-mêmes. Et si un jour, vous deviez mourir pour la cause de l'Évangile, alors je vous encourage à le faire d'une manière digne, honorer celui qui vous a racheté et chanter ses louanges, sachant que bientôt vous allez vous retrouver au creux de ses bras, et vous entrerez au ciel avec honneur et gloire. Bref, ne soyez jamais des lâches. Alors, nous sommes toujours dans le sujet de l'expiation et versus la guérison, à la page 22, et nous allons lire l'Épître de Jacques, chapitre 5, versets 13 à 20. Je crois que le livre de Jacques a été écrit qui s'adressait premièrement à des nouveaux croyants. C'est pourquoi, à mesure que vous maturez dans la foi, il y a certaines choses qui vont s'appliquer de moins en moins. Ce que je veux dire par là, prenons l'exemple d'un chrétien plus mature. Ce ne serait pas nécessaire pour un chrétien plus mature d'être oint avec de l'huile pour qu'il soit guéri. D'ailleurs, ça devrait être à eux à oindre les autres avec de l'huile pour la guérison. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ce qui prouve évidemment que les maladies ne sont pas le résultat de péchés, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alors, il y a quelques points ici. Il est dit, y en a-t-il parmi vous qui sont dans la souffrance qu'il prie? Et le verset suivant ajoute, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est malade? Alors, cela prouve que la souffrance dont il est question, verset 13, n'était pas une souffrance reliée à la maladie, parce qu'il ne peut pas vous donner deux options pour la même chose. Dans le premier cas, il dit, si tu es affligé, tu pries. Et dans le deuxième cas, si tu es malade, demande à quelqu'un de venir prier pour toi. C'est différent. Alors, lorsque les gens qui sont malades disent, c'est cela mon affliction, ce n'est pas le terme exact à utiliser. Alors, Jacques ajoute, vous faites venir les anciens de l'Église et les anciens vont prier pour toi. Et la raison que je dis que c'est pour les nouveaux chrétiens, c'est qu'il est nécessaire d'avoir quelqu'un d'autre qui vient prier pour votre maladie. Alors, les anciens vont venir, ils vont vous oindre avec de l'huile et ils vont prier la prière de la foi. Et la prière de la foi guérira le malade. Alors, il n'est pas écrit ici, les anciens vont prier et si c'est la volonté de Dieu, tu seras guéri. Et on pourrait même ajouter, il n'est pas nécessaire que la personne qui est malade ait la foi. En fait, la seule foi qu'il doit avoir, c'est d'être capable d'appeler les anciens et leur demander de venir prier. Si c'est aux anciens à prier la prière de foi, donc qui doit avoir la foi? Les anciens, non pas la personne malade. D'ailleurs, si le malade avait suffisamment de foi, il n'aurait pas besoin que les anciens viennent prier pour lui. Et il est ajouté ici, « Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Et si vous remarquez l'ordre ici, la question du péché est mentionnée après que la personne aurait été guérie. Alors, qu'est-ce qui est venu en premier, la guérison ou le pardon des péchés? La guérison est venue en premier, n'est-ce pas? Alors, cette idée de dire aux gens, alors tu dois être libéré de tes péchés avant que je puisse prier pour toi, sinon tu ne peux être guéri, cela est en opposition avec la Bible. Et si vous continuez à penser comme ça, alors vous êtes en contradiction avec Dieu. Et d'ailleurs, ce que vous faites en réalité, c'est que vous essayez de vous cacher devant une attitude religieuse. Et vous avez peine à admettre que vous n'êtes pas capable d'accomplir quelque guérison que ce soit. Alors, je vous dirais, soyez honnête, apprenez à grandir afin que vous puissiez accomplir ce que Dieu veut et que vous guérissiez les malades. Il y a deux personnes impliquées dans une guérison. La personne qui impose les mains et le malade. Alors, la personne malade accomplit son travail, elle est malade. Et le chrétien doit aussi faire son travail, c'est-à-dire imposer les mains sur le malade, et à ce moment-là, le Saint-Esprit, lui aussi, va faire son travail, il va guérir la personne. Alors, nous allons continuer dans le manuel à la page 24 et le point numéro 4. Est-ce que la guérison est incluse dans l'expiation? Alors, nous allons tourner à l'évangile de Jean 3 et verset 14. Beaucoup de gens connaissent le verset Jean 3, 16, hein, mais n'ont pas pris la peine de regarder de ce que de quoi Jésus parlait juste avant et après ce verset. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, alors le mot « comme » ici veut dire pour la même raison, pour le même résultat. Nous pouvons lire d'ailleurs dans le livre des Nombres au chapitre 21, verset 4, « Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu. » Alors voici ce que Dieu considère être des paroles prononcées contre lui. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors, en fait, de parler contre Dieu signifie de poser une question qui va remettre en doute les motifs que Dieu a dans son cœur. Et aussi de remettre en question pourquoi Dieu va-t-il permettre que vous traversiez des épreuves. Alors, je ne vais pas demander qui parmi nous sont coupables de ce péché, parce que tout le monde, nous devrons lever la main. Alors, nous remercions Dieu qu'il nous pardonne, n'est-ce pas? Alors, le peuple se plaignait de ne pas avoir de pain ni d'eau et qu'ils étaient dégoûtés de la manne. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Je continue à lire. « Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. » Alors nous voyons que l'évangile de Jean 3,14 fait référence à ce même incident. Alors nous comprenons que à cause du péché, donc Dieu a ordonné à Moïse de faire un serpent qui était placé sur une perche, et la personne qui regardait le serpent, premièrement, recevait le pardon pour ses péchés, et deuxièmement, ils étaient guéris. Après ma barre, ces gens-là ne se sont pas tournés vers Dieu à cause du péché, mais parce qu'ils étaient en train de mourir. Et nous y retrouvons le fait que dans la crucifixion de Jésus-Christ, il y a, dans un même élément, le pardon des péchés et la guérison des maladies. Alors, il est dit ailleurs dans la Bible, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Alors, quand Jésus a-t-il reçu ces meurtrissures? Avant la crucifixion, lorsqu'il a été flagellé. Donc, nous pouvons admettre que la guérison pour nos maladies a été payée avant même la crucifixion. Dans un certain sens, nous pourrions dire que Jésus aurait pu être flagellé et ne pas aller jusqu'à la crucifixion, et même là, la guérison serait disponible, parce que Jésus en a payé le prix. Vous remarquerez que fréquemment dans la Bible, nous racontons des exemples de gens qui ont péché, qui a aussi impliqué les maladies, vous remarquerez que la guérison vient toujours auparavant. Et Dieu va guérir avant de pardonner. Mais nous, encore là, nous disons le contraire. Nous allons dire aux gens, alors repens-toi tes péchés, puis Dieu va te guérir. Nous venons de voir dans Jacques où la guérison précédait le pardon des péchés. Et nous le voyons aussi encore dans cet exemple. Ils ont été guéris à cause du pardon qui leur était accordé, mais la guérison est venue premièrement. Alors Jésus a été flagellé et après il a été crucifié. D'ailleurs, au cours du ministère de Jésus, il avait dit à ses disciples dans un temps, « Allez prêcher et guérissez les malades. » À un autre endroit, il a dit, « Allez guérissez les malades et après prêcher. » Et les gens parfois vont se demander, « Qu'est-ce que je devrais faire? Prêcher avant ou prier pour les malades? » Mais écoutez, réellement, cela n'a pas beaucoup d'importance. Agissez selon ce qui est le mieux pour vous à ce moment-là. D'ailleurs, ces prédications des apôtres n'étaient pas de longs sermons théologiques. Alors Jésus était simple, il a dit à ses disciples, dites-leur, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous, et par la suite guérissez-les. Alors, vous savez, ça, c'est un sermon qui est très court. Alors, de dire aux gens, alors, le royaume de Dieu est parmi vous, et pour vous le prouver, laissez-moi vous libérer. Pourquoi? Parce que vous vivez sous l'oppression, et que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'oppression. Alors, on peut conclure qu'une personne ne pourrait peut-être pas avoir la foi pour être guérie, et même vivre dans le péché, ou ne pas être du tout un chrétien. D'ailleurs, ces gens-là, qui ne sont pas dans l'Alliance, n'ont pas un droit légal au bienfait que nous a procuré l'expiation. Par contre, pour nous qui sommes chrétiens et qui sommes en alliance avec Dieu, nous avons un droit légal de libérer les captifs. Alors, même s'il y a des gens qui n'ont pas la foi ou qui n'ont pas accès à ce privilège de l'Alliance, vous avez cette alliance avec Dieu qui vous permet de les libérer. Alors, ces gens-là peuvent être guéris sur la base de votre relation avec Dieu et de votre alliance avec Dieu. Il y a encore des gens qui vont dire « Non, ce n'est pas vrai ce que tu dis. Je crois que pour que Dieu agisse, la personne doit avoir sa propre relation avec Dieu. » Très bien, alors que direz-vous d'Abraham? La Bible dit que Lot a été sauvé à cause de la relation qu'Abraham avait avec Dieu, et non pas à cause de la relation que lui avait avec Dieu. D'ailleurs, si nous lisons bien, la vie de Lot n'était pas une vie sainte. Dès le départ, il n'aurait jamais dû se retrouver dans la ville de Sodome. Et la raison qu'il s'est retrouvé là, c'est à cause de la convoitise. Puis, il s'est impliqué dans les affaires de cette ville. Et nous croyons souvent que la raison que Dieu a jugé Sodome était à cause du problème d'homosexualité. Mais il est écrit ailleurs dans la Bible que Dieu a jugé Sodome à cause de la manière dont il traitait les pauvres et à cause de l'oppression qui régnait dans cette ville envers les malheureux et les faibles. Alors évidemment, lorsque vous vivez dans une telle attitude, oui, il y aura une dégénération et va s'en suivre toutes sortes de péchés immoraux aussi. Nous continuons. Allons maintenant dans le manuel à la page 26. Alors, comment pouvons-nous être certains que ces deux versets, c'est-à-dire le passage dans Ésaïe 53, verset 6, et dans l'Épître de Pierre 2, 24, et nous pouvons dire que ces versets sont regroupés, font partie d'une même chose à cause de ce qui est écrit dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 7. Nous avons déjà vu cela. Alors, je vais lire aussi le passage de Matthieu 8 et verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques et il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Alors, notez qu'il n'a même pas nécessairement imposé les mains ici, il a chassé par sa parole afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Pourquoi est-il dit qu'il a guéri tous les malades? Tout simplement pour que soit accompli ce qu'avait dit le prophète Ésaïe. Et d'ailleurs, si vous allez vérifier ce qui est écrit dans Ésaïe 53, ce n'est pas exactement la même chose. Alors, cela nous démontre, entre autres, que lorsque les traducteurs ont traduit ces passages-là, ils n'ont pas toujours utilisé les mots exacts et les mêmes mots. Et si vous allez vérifier dans les textes hébreux et grecs, vous allez découvrir que la traduction des mots dans Ésaïe 53 et dans les versets 4 et 5 et les versets 11 et 12 nous montre que ce verset-ci est une meilleure traduction de ces versets-là. Les mots utilisés dans Ésaïe 53 sont « souffrance » et « douleur », tandis que la citation ici, dans le Nouveau Testament, parle d'infirmité et de maladie, ce qui démontre clairement qu'il ne s'agissait pas, dans le livre d'Ésaïe, seulement de nos souffrances, de nos péchés et de nos problèmes intérieurs, mais bien des maladies et des infirmités. Alors, il est très clair. Je vais le relire, si vous voulez. Afin que s'accomplit ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alors encore là, il y a des gens qui vont dire, ok, alors puisque Jésus a accompli cette prophétie au moment même où il le disait là dans Matthieu, donc cela signifie qu'aujourd'hui, il ne peut plus guérir les malades parce que la prophétie a été accomplie. Cet énoncé est ridicule, parce que si c'est ce que vous croyez, vous devez aussi admettre que lorsque Jésus est mort sur la croix pour le pardon des péchés, les seuls qui ont pu être pardonnés étaient les gens qui étaient avec Jésus à ce moment-là. Et c'est ce que Jésus a fait et seulement effectif au moment où le verset a été cité. Donc, tout cela veut dire que la crucifixion non plus ne peut être appliquée aujourd'hui. D'ailleurs, d'inscrire que Jésus a accompli une prophétie, cela ne veut pas dire que la chose va prendre fin, parce que moi-même, j'accomplis une prophétie donnée par Jésus à chaque fois que j'impose les mains aux malades. Parce que Jésus a dit, et il a prophétisé, les croyants imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'était une prophétie qui devait se réaliser dans le futur. Et moi, j'accomplis cette prophétie à chaque fois que j'impose les mains aux malades. Alors, la prophétie ne s'est pas accomplie seulement une fois. Nous pouvons affirmer que l'évangéliste Matthieu, qui a écrit ces paroles-là, sous l'inspiration divine, a donné une correcte interprétation au verset qui était mentionné dans le livre d'Ésaïe et au chapitre 53. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles Jésus guérissait les malades, c'est effectivement pour que la prophétie s'accomplisse. En d'autres mots, Dieu, le Saint-Esprit, avait prophétisé à travers le prophète Ésaïe. Jésus connaissait cette prophétie-là et il a accompli cette prophétie-là volontairement pour qu'elle puisse justement trouver son accomplissement. Et n'oublions pas que ce que Jésus a accompli dans Matthieu au chapitre 8, ce sont bel et bien des guérisons physiques. Ce qui nous démontre que Jésus comprenait cette prophétie-là comme étant la guérison du corps. D'ailleurs, c'est encore le même verset qui est cité dans 1 Pierre 2 et 24. Et encore là, certaines gens vont dire, non, il ne s'agit pas de guérison physique, mais de guérison intérieure, émotionnelle. Mais là, nous avons devant nos yeux le Seigneur Jésus qui relie les guérisons physiques à Ésaïe 53, le même passage qui est cité dans 1 Pierre 2, 24. Et ce qui prouve que les gens qui amènent de pareils arguments ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Ajoutons ceci, si la guérison est incluse dans l'expiation, il s'agit d'un fait accompli. Ça s'est déjà produit dans le passé. Et je crois que c'est le plus grand changement que vous devez accomplir dans votre mentalité. Vous devez cesser de supplier Dieu pour qu'il guérisse un malade. Vous devez comprendre que Dieu a déjà accompli ce qui est nécessaire à la guérison et il a décrété que les captifs seraient libérés. Comme nous l'avons déjà vu, où est-ce qu'Abraham Lincoln a déclaré la liberté de tous les esclaves? Pourtant, il leur a fallu 100 ans avant de réaliser. C'est pourquoi je dis que vous devez arriver au point où vous cesserez de convaincre Dieu pour qu'il guérisse les malades. Et de la même manière que le décret de liberté pour les esclaves avait été annoncé en 1863, et qu'à partir de ce moment-là, d'une manière légale, les esclaves étaient libres, même s'ils avaient des chaînes aux pieds. Et ce qui veut dire que chaque personne qui plaçait ses chaînes au pied des esclaves violait la loi. Alors évidemment, des gens vont me dire « Oui, mais je suis toujours malade. Qu'est-ce qu'on va faire? » Ce que je dis, c'est que Dieu a déclaré votre guérison et que Dieu a établi une loi qui te libère. Et ce que je ne dis pas, par contre, c'est que le diable va simplement vous dire « Ah bon, je regrette, je ne savais pas que cette loi existait, je vais retirer mes chaînes et je vais te laisser aller. » Parce que le diable est un criminel. Il viole la loi qui dit que vous êtes libre. Il a placé ses chaînes sur vous de toutes sortes de manières à travers les maladies et les infirmités. Mais tout cela, il le fait de manière illégale. J'affirme que toute forme de maladie et d'infirmité, particulièrement chez un chrétien, est totalement illégale. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un de malade se tient devant moi, je ne vais pas commencer à les questionner pour leur demander s'ils méritent cette maladie, ou encore quelle sorte de péché ils ont commis. Je ne leur parle jamais de liens de génération ou ces choses-là. Je me vois plutôt comme un policier qui doit faire respecter les lois du royaume de Dieu. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, lorsque je prie pour les malades, je ne vais même pas m'adresser à Dieu. Et si je m'adresse à la personne malade, c'est simplement pour découvrir quelle est l'accusation que la personne malade lance contre ce criminel qui est en train de les meurtrir. Alors, une fois que je détiens le nom de l'accusation, qu'il s'agisse d'une maladie ou d'une infirmité, alors je cesse immédiatement de placer mon attention sur la personne malade et je tourne toute mon attention vers le criminel. Je lui ordonne de quitter ce corps, d'amener avec lui tous les symptômes et tous les petits amis qu'il a amenés avec lui. Essentiellement, je suis là pour lui remettre un avis d'expulsion. Alors, il y a plusieurs années, Dieu a lui-même rédigé cet avis d'expulsion. Et mon devoir est de lui donner cet avis afin qu'il fasse ses bagages et qu'il quitte. Alors, prenons comme exemple un policier qui va se retrouver dans un certain quartier de la ville où il y a beaucoup de vendeurs de drogue. Alors, ils ne peuvent pas vraiment prouver que certaines personnes de ce quartier le sont, mais ils le savent. Alors, peut-être que l'un de ces vendeurs de drogue va devoir un jour appeler l'aide des policiers. Par exemple, quelqu'un vient pour les attaquer dans leur domicile. Alors, le policier va s'y rendre et puis arrêter la personne qui est là pour le battre. Et ce que nous aurions fait souvent comme chrétiens, c'est que nous nous serions retrouvés dans la maison de ce vendeur de drogue qui appelle pour de l'aide, et plutôt que d'arrêter l'intrus, donc nous serions là en train de chercher dans sa maison toutes sortes d'évidences pour prouver qu'il est un vendeur de drogue. D'ailleurs, selon la loi, même si vous vous trouvez dans la maison de ce vendeur de drogue pour une autre raison que la drogue, vous n'avez même pas le droit de l'arrêter comme ça, sans évidence. La raison que je donne cet exemple, c'est pour que vous cessiez de blâmer les gens. Votre rôle est tout simplement de libérer les captifs. Vous n'êtes pas leur juge. Vous pouvez agir envers les autres seulement de deux façons. Alors, soit que vous soyez la personne qui va toujours chercher à élever les autres, à les fortifier, ou vous serez le type de personne qui va toujours chercher à diminuer les autres gens. Et croyez-moi, vous devriez revêtir cette attitude d'humilité. Sinon, Dieu lui-même va devoir vous humilier. Et si vous êtes assez humble pour élever les autres, alors Dieu lui-même va aussi vous élever. Alors, c'est la même chose dans votre intervention envers les gens. Donc, cessez de vouloir occuper la position du juge. Alors, accomplissez simplement votre tâche qui est de libérer les captifs. Une fois que la personne est rendue libre, là, il y aura la tâche de faire de ces gens des disciples. Et malheureusement, trop de gens croient que la manière de libérer les gens, c'est de leur donner de la formation de disciples. Cela ne fonctionne pas. Alors, je continue à lire dans le manuel, au point numéro 5. Comme on a dit, donc si la guérison fait partie de l'expiation, il s'agit d'un fait accompli. Et nous pouvons affirmer que la guérison et le pardon sont incluses dans la crucifixion. D'autres gens vont dire, oui, mais si j'ai à choisir entre les deux, alors là, le pardon est plus important. Cela est sans doute vrai, mais ce n'est pas à vous à choisir entre ces deux éléments. Et quelqu'un va dire, si je dois choisir, alors évidemment, je vais choisir le salut plutôt que la guérison. Mais moi, j'aimerais vous dire que seulement le diable et ses acolytes vont chercher à vous amener à choisir entre les deux. Ne choisissez pas le salut au détriment de la guérison. Choisissez le salut et la guérison, parce que la guérison est incluse dans le salut. N'essayez pas d'obtenir moins que ce que Dieu a à vous offrir. Il est assez fréquent que j'aie aussi à prier pour des gens qui ont plusieurs maladies et qui vont me dire alors j'aimerais qu'on prie pour cette maladie que j'ai qui est plus importante que les autres. Alors on va laisser faire les autres et on va tenter d'avoir la guérison pour cette maladie-là. Mais cela n'a pas de sens, parce que si nous pouvons guérir la maladie la plus grave, alors évidemment, les autres maladies peuvent être guéries aussi. Alors pourquoi accepter de tolérer les maladies moins graves, tandis que Jésus a payé pour que toutes les maladies soient guéries, qu'il s'agisse d'un cancer ou d'un mal de tête? Et il y a beaucoup de choses que nous apprenons à mesure que nous les mettons en pratique. Et l'une de celles-là, c'est que j'ai constaté qu'il y a, grosso modo, deux types de gens. il y a les gens qui sont d'un tempérament plus passif et d'autres d'un tempérament plus agressif. Alors, il est possible d'aller vers une personne passive et de l'amener à changer et de devenir plus agressive. D'ailleurs, c'est ce que j'essaie de faire avec vous, parce que mon expérience me montre que cela fonctionne mieux. Mais l'Église fait le contraire. Elle essaie de transformer des gens actifs et agressifs pour qu'ils deviennent des personnes passives. Et cela provient d'une infiltration de la philosophie de l'Est qui est entrée dans l'Église. Alors, tout simplement, un seul exemple, c'est idiot. J'étais au restaurant McDonald's ce matin et il y avait une publicité pour une salade asiatique. Et on avait mis la phrase « Accomplissez l'harmonie intérieure pour une salade ». Je peux vous dire que je suis demeuré ferme devant cette salade-là. J'ai refusé le compromis. Il y a des gens qui vont me dire « Qu'est-ce que tu fais du verset dans la Bible qui dit de manger ce qui vous sera présenté devant vous ?» Et je leur réponds « Oui, ce verset est vrai, mais je prends toujours soin de savoir devant quelle mets je vais m'asseoir. » Et d'ailleurs, la raison que nous avons de telles publicités, c'est que les gens en Amérique perçoivent les gens de philosophie orientale comme des gens très spirituels. Ils les voient comme des gens qui sont en harmonie et avec une grande paix intérieure. Mais j'aimerais dire que il peut y avoir des peuples qui ont une apparence de spiritualité, mais cela ne veut pas dire du tout qu'ils sont saints. D'ailleurs, il y a beaucoup de philosophies spirituelles ici en Amérique qui n'ont rien à voir avec une vie de sainteté. Vous savez, toute cette idée de faire le vide à l'intérieur de soi, la Bible n'a jamais enseigné cela. La Bible enseigne d'être renouvelé dans notre intelligence. Si vous essayez de faire le vide en vous, je vous le dis, il y aura des démons qui vont venir. C'est aussi simple que cela. Il y a des gens qui vont répondre, « Non, moi, je suis un chrétien, je ne peux pas avoir de démons. » Très bien, alors je vais le dire différemment, vous aurez un problème. Cela vous convient mieux? Alors, si nous avons une personne qui est alcoolique et qui est aux prises avec un démon lorsqu'il n'est pas sauvé, donc pourquoi cette même personne, lorsqu'il entre dans l'Église, se retrouve là avec un problème plutôt qu'un démon? Alors, laissez-moi vous dire que si c'était un démon avant qu'il entre dans l'Église, c'est encore un démon lorsqu'il est là. Je n'ai pas dit là qu'il était possédé par un démon. Parce que, en fait, si vous êtes né de nouveau, votre esprit est né de nouveau en Dieu, mais votre âme peut être encore troublée. L'ennemi va toujours essayer de travailler au niveau de votre âme. D'ailleurs, ce verset-là, qui fait référence aux forteresses, n'est pas en train de nous dire que nous devons détruire les forteresses là-bas, dans les lieux célestes. Il parle de nos pensées. Les démons vont œuvrer dans votre chair, ils vont œuvrer dans votre âme. Et si vous êtes né de nouveau et que vous décédez de cette manière-là, cela ne signifie pas que vous ne pourrez pas entrer au ciel parce que votre esprit a été sauvé. Et le diable ne peut pas posséder votre esprit, mais il agit dans votre chair et dans votre âme. D'ailleurs, le cancer n'est pas dans votre esprit, il est dans votre chair. Et si le cancer est produit par un esprit, alors cet esprit-là est dans la chair. Donc vous dites, peut-être un démon ne peut pas habiter dans la chair. Vous vous trompez. Le démon est un esprit et vous êtes un esprit et vous habitez dans la chair. Et comme je l'ai dit déjà, j'ai été tellement béni d'être enseigné par le docteur Summerall parce que pour lui, ces choses-là étaient tellement exprimées clairement. Il avait fait toute une série d'enseignements qui touchaient l'homme avec l'aspect de son corps, de son âme et de son esprit. D'ailleurs, cet enseignement-là m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à exercer le ministère envers les gens, et particulièrement envers les personnes qui avaient vécu des traumatismes. Prenons le cas d'une dame qui aurait été abusée ou violée lorsqu'elle était enfant. Ce même esprit de convoitise qui habitait l'individu qui l'a abusée lorsqu'elle était enfant, ou cela se produit aussi à n'importe quel âge, ce démon de convoitise qui recherche à s'exprimer à travers l'abuseur, au cours de cette expérience de traumatisme, va chercher à s'introduire chez la victime. D'ailleurs, la Bible dit que la parole de Dieu est tranchante et peut trancher entre l'âme et l'esprit. Cela signifie que l'âme et l'esprit sont donc deux éléments séparés, mais par contre qui sont en continuelle interaction. Et ce qui se produit lors d'une expérience traumatisante, ou même, ça pourrait être même lors d'un accident d'automobile ou autre, c'est que lors de l'événement, dans une fraction de seconde, tout votre être va devenir très tendu Et à ce moment précis, c'est comme s'il se produisait une déchirure entre l'âme et l'esprit. À ce moment-là, lorsque l'individu vit une peur intense, un esprit d'infirmité peut s'introduire par cette déchirure, par cette ouverture, et immédiatement après, l'âme et l'esprit redeviennent une même entité, on pourrait dire, se referment. C'est un peu comme un mécanisme d'autodéfense, et l'esprit peut demeurer prisonnier là. D'ailleurs, dans la Bible, vous avez des exemples, entre autres, où une dame avait dit « ma fille a un démon ». Et en d'autres endroits, on va dire que la personne est possédée d'un démon. Plusieurs gens croient qu'il s'agit de la même chose, mais ce n'est pas le cas. Alors, dans le cas d'une possession, nous pourrions penser à l'exemple de l'homme qui vivait dans les grottes, qui avait été lié avec des chaînes, qui s'auto-mutilait. Et par contre, dans le cas de la femme syrophénicienne qui admettait que sa fille avait un démon, alors à ce moment-là, c'est le type de démon qui vont s'infiltrer plutôt lors d'un traumatisme, comme je viens de l'expliquer. Alors, il demeure un peu prisonnier dans la personne. Alors là, la fille a un démon, mais ce n'est pas une possession. Et suite à ce type d'événement, de traumatisme, le démon ne peut même pas ressortir, même s'il le voulait. Il est prisonnier. Comme je le disais, au fur et à mesure que j'ai commencé à prier pour les gens, je me suis rendu compte que dans les cas particuliers comme celui-ci, où la personne avait un démon, et il s'est produit souvent, à mesure que je priais, je pouvais par exemple dire « Au nom de Jésus, je t'ordonne, esprit, de sortir maintenant !» Et je frappais des mains comme ça, spontanément. Et souvent, lorsque je frappais les mains comme ça, immédiatement je me rendais compte que la personne devenait libérée. C'est comme si, en quelque sorte, je recréais à l'inverse ce choc qui avait permis l'ouverture entre l'âme et l'esprit et où lesquels le démon s'était faufilé. Et si nous revenons à notre exemple de l'accident d'automobile, alors souvent, immédiatement après l'accident ou le choc, la personne ne se rendra compte de rien. Mais après quelques jours, parfois même quelques semaines, il y aura des conséquences, des symptômes qui vont commencer à se manifester dans le corps de la personne. Cela signifie simplement que ce démon-là est entré. Donc, c'est important de reconnaître comment cela fonctionne. Je ne vous dis pas que vous êtes dans l'obligation de frapper des mains à chaque fois que vous priez pour quelqu'un, mais vous devez chasser ce démon. Et je peux vous dire que selon mon expérience, dans la plupart des cas de personnes pour lesquelles j'ai prié et qui avaient vécu des abus ou des viols, bref, qu'il s'agisse d'une dame ou d'un homme, souvent, il y a beaucoup d'hommes qui ont été abusés de cette manière, mais ils ne vont pas peut-être l'admettre ou le dire. Et ce que j'ai constaté, c'est que ce même esprit qui habitait la personne qui est l'abuseur a été transféré dans la personne qui a été abusée. Et ce sera aussi le même esprit. Alors, s'il s'agissait d'un esprit de convoitise, donc c'est un esprit de convoitise qui sera transféré à la personne. Et cet esprit de convoitise, particulièrement chez une dame, va généralement prendre deux manières d'expression. Alors, dans un premier cas, alors dans le cas d'une dame abusée, puisque c'est un homme qui a commis l'abus, donc cette personne-là va se tourner contre les hommes et souvent devenir une lesbienne. Et le deuxième aspect, d'ailleurs cet aspect-là ne pourrait faire aucun sens logique s'il n'était pas question là d'un démon qui était transféré dans la personne. Parce que souvent, plutôt que de devenir une lesbienne, cette dame va plutôt rechercher à avoir multiples relations sexuelles avec plusieurs hommes. Et c'est pour cela que j'affirme que le même esprit de convoitise qui habitait l'abuseur a maintenant été transféré dans cette personne. Et cet esprit-là cherche à s'exprimer maintenant à travers ce caractère féminin. Et ce qui est triste dans tout cela, c'est que cet esprit-là s'est en quelque sorte imposé dans le corps de cette personne-là. Et ce qui m'attriste encore plus, c'est que beaucoup de ces gens vont avoir à vivre toute leur vie de cette manière-là, sans être libéré. Et je pourrais donner d'autres exemples. Il arrive assez fréquemment dans l'Église que des hommes homosexuels vont venir à l'Église avec le désir d'être libérés et de changer ces péchés-là. Et évidemment, dans ces cas précis, nous pouvons constater qu'il y a parfois certaines caractéristiques qui sont démontrées par certains types d'esprits. Et ce qui est triste, c'est qu'une personne homosexuelle va venir dans l'Église, va être libéré de cet esprit, mais par contre, les autres hommes qui sont dans l'Église ne voudront pas s'interrelier avec cette personne-là, malheureusement à cause de sa mauvaise réputation. Alors, cette personne qui a été libérée, s'il ne peut pas malheureusement fraterniser avec les hommes, que va-t-il faire? Donc, il va aller avec les dames, ce qui n'est pas nécessairement le groupe de personnes qui vont pouvoir l'aider à cette étape-ci. Pourquoi? Parce qu'il va continuer à manifester certaines des caractéristiques de l'esprit qui l'habitait auparavant, c'est-à-dire des caractéristiques féminines. Alors, effectivement, le démon l'a quitté, mais lorsque cette personne a été libérée, il est nécessaire de l'aider et qu'il puisse devenir un disciple. Et dans ce cas précis, il est nécessaire qu'une telle personne soit prise en charge par des hommes qui vont l'aider et qui vont l'amener à un changement au niveau de ses caractéristiques. Parce que nous devons nous souvenir que les esprits, lorsqu'ils ont quitté un corps, cherchent à revenir. Et lorsqu'ils reviennent, ils recherchent certaines caractéristiques qui les inviteraient à reprendre la place qu'ils avaient auparavant. Donc, il est nécessaire, une fois qu'ils auront été délivrés de leurs démons, qu'ils puissent aussi être délivrés des habitudes qu'ils avaient lorsque ces démons habitaient dans leur corps. Par exemple, pendant une année complète, j'ai cessé de boire du coke pour être certain que cette habitude n'était pas une habitude qui dominait ma vie. Et ce qui est étrange, à chaque fois que je traversais le seuil de l'épicerie, je me retrouvais continuellement devant l'endroit où j'allais acheter mes canettes de coke. Alors, j'en prenais conscience et plutôt que d'acheter le coke, j'achetais une bouteille d'eau. Donc, ce que je disais, au niveau de l'homosexualité, nous savons que les hommes homosexuels développent des manières féminines. Et ils vont placer leurs mains, par exemple, sur leurs hanches en prenant une position très féminine. Alors, c'est vrai, tout le monde peut s'en apercevoir. Alors, si, par exemple, cette personne, après avoir été délivrée des démons, pouvait avoir un groupe d'amis masculins, donc, ils vont être là simplement en train de parler ensemble. Et malheureusement, ces anciennes habitudes vont peut-être à un certain moment donné refaire surface. Et tout à coup, les gens vont faire une blague, tout ça. Et tout à coup, le gars va se mettre à rire, mais agir un peu comme une femme. Alors, c'est à ce moment-là que les hommes qui sont devenus ses amis devraient pouvoir l'aider. Alors, évidemment, en prenant soin de ne pas humilier cette personne-là, puis d'une manière délicate d'aider la personne à perdre ses habitudes-là. Alors, les hommes ne font pas seulement un petit signe de la main, ils pointent du doigt. Donc, il y a une manière masculine de faire les choses. Et c'est la même chose un peu pour la manière de rire. Un homme et une femme ne rient pas de la même manière. Et après un certain temps dans l'amitié, cette personne-là pourra changer les anciennes caractéristiques qui étaient en réalité celles du démon. Autrement, si ce n'est pas le cas, alors l'esprit va revenir et croire qu'il est encore le bienvenu chez cette personne-là. D'ailleurs, je pourrais utiliser beaucoup d'autres exemples. L'un de ces exemples est le yoga. Vous savez, toutes les positions du yoga sont des positions de prière envers un dieu hindou. Et c'est pourquoi aucun chrétien ne doit pratiquer le yoga. D'ailleurs, le nom yoga signifie l'union avec Dieu. Et évidemment, il n'est pas question ici du dieu de la Bible. Et même lorsque je pratiquais les arts martiaux, pour acquérir le 4e degré de ceinture noire, l'un des travaux était de prendre une technique particulière et de faire un travail de recherche sur cette technique-là. Donc, j'ai choisi d'utiliser une technique que je pratiquais, qui était pour effectuer un blocage et qui avait comme nom Tansao, ce qui veut dire en réalité un blocage avec la paume vers le haut. Alors, cette position-là agissait un peu comme pour bloquer les coups qu'un adversaire pourrait nous avoir affligés. Et évidemment, cette technique était efficace parce qu'elle a un peu l'effet d'un amortisseur. Alors, peu importe la force avec laquelle l'adversaire va nous frapper, donc cette technique était excellente pour bloquer les coups. Alors, comme je vous le disais, j'ai fait un travail de recherche approfondi au niveau de cette position particulière. Évidemment, j'avais pratiqué, j'avais utilisé cette technique-là pendant de nombreuses années. Alors, ça, nous élevions comme ça notre main et par la suite, la main devait s'incliner comme cela. Et je l'ai fait pendant des années, mais j'ai découvert à travers mes recherches que l'origine de cette technique-là, comme d'ailleurs le dit le nom chinois, se traduisait littéralement par demander de l'aide à Bouddha. Mais personne ne m'avait dit cela auparavant. On m'avait seulement dit, alors ce mouvement s'appelle Tansa, c'est un mouvement de blocage avec la paume vers le haut. Je ne savais pas cela, mais à chaque fois que je faisais ce mouvement-là, je recherchais à recevoir de l'aide d'un démon. Et je peux vous dire que cela me remplissait d'énergie à tel point que je pouvais accomplir des choses qui étaient techniquement impossibles. Par exemple, lorsque je faisais des démonstrations, généralement, je choisissais dans la foule deux hommes, d'ailleurs les hommes qui étaient les plus gros dans l'assistance, les plus costauds. Alors, je me plaçais devant la foule avec ces deux hommes et je leur disais de me frapper dans l'abdomen avec toute la force dont ils étaient capables. Alors, ces hommes-là me frappaient avec une pleine force, exactement ici, dans l'abdomen, et je ne ressentais pratiquement rien. Je n'ai jamais perdu le souffle, je n'ai jamais bougé. Peu importe la force de ceux qui me frappaient. Cela ne faisait aucune différence parce que je recevais l'énergie d'un esprit. Et d'ailleurs, je peux vous donner un autre exemple de cela. Je demandais encore là à deux hommes les plus costauds d'avancer et je leur demandais tout simplement, dans un premier temps, de me soulever. Alors évidemment, ils me soulevaient avec grande facilité, d'autant plus qu'à cette époque-là, je ne pesais que 59 kilos. Alors, ce n'était pas difficile de me soulever. Je disais à ces hommes-là, reculez, comptez jusqu'à 30, et puis venez me soulever à nouveau. Et pendant qu'ils comptaient jusqu'à 30, je m'installais, je me relaxais, et j'accomplissais cette technique que nous appelions s'enraciner. Et lorsque les hommes forts s'approchaient pour me soulever à nouveau, et croyant que ce serait aussi facile que la première fois, ils ne pouvaient plus me soulever. Et là, il se baissait, essayait de me prendre d'une manière différente, impossible de me soulever. Et ils n'ont jamais réussi à me lever. Alors, comment cela était possible? C'est à cause d'un démon que j'avais fait entrer en moi. Et si vous m'aviez parlé à cette époque, je vous aurais dit, je suis un chrétien, pourtant j'étais complètement possédé par les démons. Et lorsque j'ai abandonné les armes martiaux, Dieu m'a libéré de tout cela. Et dans les 27 jours qui ont suivi ma décision, j'ai été délivré de 22 démons qui habitaient en moi. J'étais conscient, lorsque chacun de ces démons me quittait, je savais quel était leur rôle et de quelle manière ils se manifestaient à travers moi. Alors, je peux dire sans hésiter que tout ce qui est relié aux arts martiaux est un faux évangile. Ils nous promettent la paix, mais c'est une fausse paix. Ils nous promettent une sécurité, mais c'est une fausse sécurité. Ils nous promettent la puissance, mais c'est une mauvaise puissance. D'ailleurs, si vous regardez attentivement, l'Église et les arts martiaux ont beaucoup de similarités. Alors, les arts martiaux sont toujours reliés à un individu qui est venu et qui avait développé une nouvelle manière de se battre. Il a attiré des disciples, il les a enseignés, et lorsque cette personne est décédée, les disciples ont enseigné d'autres disciples, et cela s'est manifesté jusqu'à aujourd'hui, où ils ont développé différentes petites écoles de pensée. Alors, l'Église a tire son origine de Jésus, qui lui aussi avait des disciples. Et lorsqu'il est parti, ses disciples ont fait d'autres disciples. Et maintenant, nous nous retrouvons avec plusieurs dénominations. C'est le même format que les arts martiaux. Et c'est pour ça que j'affirme qu'un vrai chrétien n'a rien à voir ni avec les arts martiaux, ni avec la religiosité. Alors, c'est très bien comme ça. J'aimerais que nous retournions à ce sujet sur la guérison et l'expiation. Je ne sais pas vraiment si nous avons le temps. Alors, seriez-vous prêt à prendre tout cela pour acquis sans que j'aie à nouveau à vous l'expliquer? Ça serait beaucoup plus simple, hein? Alors, je crois le mieux serait que vous alliez maintenant en pause et que vous reveniez dans 10 minutes. Et je dis bien 10 minutes. Allez-y. Avez-vous retiré quelque chose de cet enseignement? Oui, ah, c'est très bien.